Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet entament leur visite de 3 jours en Calédonie. Ils ont participé ce matin à la cérémonie du 11 novembre, place Bir Hakeim. Sénat coutumier, gouvernement, congrès ce matin, province nord cet après-midi. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale sont là pour échanger et pour écouter, ont-ils rappelé. En métropole, 4000 policiers et gendarmes seront déployés pour un match de foot sous haute tension vendredi matin pour nous. La France reçoit Israël au Stade de France. La tension sociale monte d'un cran. Grève à venir à la SNCF, dans le transport aérien et les agriculteurs menacent maintenant de reprendre leur mouvement du début d'année. Dans la page sport du football, avec la fin de la 11e journée de Ligue 1, Lyon remporte son derby à 0 face à Saint-Étienne. Et puis le top départ du Graal des navigateurs en solitaire. Les 40 skippers du Vendée Globe ont pris la mer la nuit dernière pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 avait une tonalité particulière cette année à Nouméa. Elle s'est en effet déroulée comme d'habitude, place Bir Hakeim, mais en présence du président du Sénat, Gérard Larcher, et de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui entamait par ce rendez-vous leur visite de 3 jours sur le territoire. Accompagnés par le haut-commissaire, ils sont arrivés à 7h30 précise pour prendre place sur le rang protocolaire aux côtés de la présidente de la province sud, Sonia Backès, du maire de Nouméa, Sonia Lagarde, des 2 sénateurs, Georges Naturel et Robert Rowy, de la présidente du Congrès, Velma Falaéo, et de la vice-présidente du gouvernement, Isabelle Chamorro. Avant le traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, 8 militaires ont été distingués. 2 d'entre eux ont été faits chevaliers dans l'ordre national de la Légion d'honneur. 4 ont reçu la médaille militaire. Les 2 derniers ont été faits chevaliers dans l'ordre national du mérite. Une cérémonie à laquelle assistait également le général Latil, commandant supérieur des FANC, le général Mathéos, commandant la gendarmerie, et le commissaire général Jean-Marie Cavier, directeur territorial de la police nationale. C'est un élève du lycée La Pérouse qui a lu l'ordre du jour du maréchal Foch le 18 novembre 1918, le jour où Français et Allemands ont signé un armistice qui mit fin au combat meurtrier de la Grande Guerre. Et c'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui a lu le message du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu.
Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France.
Cessez le feu.
Fin de cette cérémonie, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont pris le temps de saluer les Calédoniens qui avaient pris place dans les 3 tribunes installées pour l'occasion. Ils ont aussi rappelé ce qu'ils attendaient de cette visite et dans quel état d'esprit ils l'entamaient.
On est arrivé cette nuit avec le président du Sénat. C'est une visite qui, pour nous, est extrêmement importante. Nous sommes conscients des enjeux. Nous sommes venus en tant que président de chambre, élu, pour voir et échanger avec d'autres élus. On voit que nous étions attendus. Et là, nous venons juste d'échanger avec quelques citoyens qui nous disent à quel point ils sont heureux de nous voir ici, en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'instant, c'est écouter, c'est ça ?
Oui. D'abord, c'est un peu exceptionnel que nous soyons ensemble. Non, pas du tout que nous ayons des rapports distants, mais que nous soyons ensemble à une date symbolique. Nous venons de partager la mémoire du 11 novembre. Et quelque part, dans le chemin de coutume, c'est le souvenir de nos anciens, de ce qu'ils nous transmettent, et des valeurs dont nous devons être aujourd'hui, j'allais dire, l'expression. Et dans ces valeurs, il y a la valeur de la paix retrouvée, il y a la valeur de la concorde, il y a la valeur du partage. Nous sommes là avec humilité pour écouter.
Et après cette cérémonie, place Bir Hakeim, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont poursuivi leur visite en se rendant au siège du Sénat coutumier à Nouville, Michael Juneski.
Oui, faire de 2 rêves, un rêve partagé. Les mots de Gérard Larcher lors de sa coutume de bonjour au siège de l'institution coutumière. Des paroles fortes du président du Sénat qui a adressé avant tout un message de paix aux membres du Sénat coutumier.
Chers collègues sénateurs,
coutumier, grand chef coutumier, qui représentait ici les 8 R. Merci de nous accueillir avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Merci de le faire en cette date du 11 novembre. Monsieur le Président, nous nous sommes inclinés devant un petit monument tout à l'heure, à la mémoire de ceux qui sont tombés pour les valeurs de la République, pour notre liberté. Et la cordeline nous rappelle le lien par la terre, par la mémoire, par, j'allais dire, les cendres, que hier doit éclairer aujourd'hui et demain. Nous venons tous deux avec humilité pour écouter, pour partager, pour, comme cette natte, tresser entre nous ce qui va nous permettre de nous asseoir ensemble et de partager autour de la natte. Je n'oublie pas que depuis Matignon jusqu'à Nouméa, qui vit la naissance du Sénat coutumier, votre rôle est important. Vous devez contribuer à ce que nous souhaitons, le dialogue pour la paix retrouvée, pour la sérénité, et la conjugaison de deux rêves qu'il n'est pas impossible de faire conjuguer. C'est en tous les cas faire de deux rêves un rêve partagé. C'est un enjeu majeur. Le Sénat, dans l'histoire, synonyme de paix et de sérénité. Je sais que le Sénat coutumier partage cette valeur qui nous vient depuis bientôt plus de 2 siècles dans la République française.
Oui. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a également mentionné lors de sa prise de parole avec émotion sa dernière venue en Calédonie, où elle s'était rendue à Tiga pour se recueillir sur la tombe du tirailleur Kalepo Wabet. S'en sont suivis des échanges dans l'hémicycle du Sénat coutumier. Éloi Goé, le président de l'instance coutumière, s'est dit satisfait des échanges menés avec deux interlocuteurs à l'écoute.
Le premier niveau, c'est de dire que ce que le peuple Kanak et les Calédoniens en général attendaient du processus de l'accord de Nouméa, quoi. Ce qu'on dit qu'il est inachevé, des choses ont été réalisées, d'autres moins bien, et particulièrement sur le volet qui touche à la question sociétale, quoi. Compte tenu de ce bilan mitigé de l'accord de Nouméa, nous avons remis un document sur le schéma de l'ADN, donc avec une réécriture du préambule qui fait quand même les constats des manquements, avec un contenu sur les pistes sur lesquelles on doit se diriger. C'est notre contribution auprès de nos élus responsables politiques pour participer à, comme ils disent, le grand accord, quoi, si y a lieu, quoi. On a été, des oreilles attentives, quoi, de la part de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Ils sont prêts à nous accompagner, nous entendre, faire en sorte que, quoi, les erreurs du passé ne se reproduisent, quoi. C'est des personnes représentantes des hauts lieux, quoi, de la responsabilité politique nationale. On les a reçus, on avait l'impression que ce sont des gens comme nous qui ont essayé de se mettre comme ils le sont, quoi, tout naturellement, quoi, à notre niveau, et échanger de citoyen à citoyen, quoi. Ce que nous avons retenu aussi, c'est qu'ils ne sont pas venus avec des idées arrêtées, quoi. Ils sont venus pour écouter dans un premier temps. Nous avons évoqué la question de la méthode, quoi. Ils sont venus pour construire le dialogue, quoi, en tenant compte des particularités, des avis des uns et des autres, là où ils sont, quoi.
Lors de son discours avec une connotation largement politique, le président du Sénat coutumier a tout de même présenté des revendications. L'instance souhaite occuper une plus grande place dans les discussions sur l'avenir institutionnel et fait des propositions aux représentants des parlements et à l'État. Proroger l'accord de Nouméa d'une ou deux mandatures, au maximum 5 à 10 ans, avec au terme un référendum d'autodétermination qui porterait cette fois sur la question du lien avec la France, mais aussi la reformulation du préambule de l'accord de Nouméa. Il demande aussi, entre autres, que soit discuté et adopté le programme Mémoire et Vérité, chantier ouvert par le président Emmanuel Macron en 2023.
Après cette rencontre au Sénat coutumier, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet se sont entretenus avec le président du gouvernement, Louis Mapou, avant d'échanger avec tous les membres du gouvernement, essentiellement autour du plan S2R. Ils se sont ensuite rendus au Congrès pour un entretien avec sa présidente Velma Falaéo. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale partent cet après-midi pour Koné avec une nouvelle commémoration de l'armistice au monument aux morts de Koné. Elle est prévue à 13h20. Ils seront ensuite accueillis à l'hôtel de la province Nord pour s'entretenir avec le président Paul Néaoutine et les élus de la province. Après quoi, ils seront de retour à Nouméa pour s'entretenir d'abord avec la présidente de la province Sud, Sonia Bakès, et avec le président de la province des îles, Jacques Lallier. La suite de l'actualité en Calédonie est 7 personnes placées sous contrôle judiciaire vendredi sur réquisition du parquet. Elles avaient été déférées à la justice pour menace de mort sous condition au préjudice de la famille Metzdorf résidente à Poya, Elisabeth Noir.
Le parquet avait ordonné vendredi soir le déferrement des 7 personnes mises en cause qui appartiennent au clan Weko. Le 19 octobre dernier, elles avaient remis à la gendarmerie de Poya un document intitulé « Acte légitime de proclamation de pleine souveraineté clanique, mythique et totémique » à l'encontre de messieurs Claude Metzdorf et Nicolas Metzdorf pour occupation sans droit ni titre de leur propriété à Poya. Il était également précisé que cette revendication foncière prenait effet au 11 novembre 2024 et dans une vidéo sur Facebook, les signataires de ce document formulaient des menaces de mort. Cette action laissait craindre le déplacement des protagonistes sur les propriétés concernées, notamment à partir du 11 novembre, indique le parquet. Les 7 individus ont donc été placés en garde à vue vendredi et lors de leurs auditions, ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de s'en prendre à la famille Metzdorf et que leur message s'adressait aux esprits. Le juge a décidé toutefois de les placer sous contrôle judiciaire conformément aux réquisitions du parquet, avec interdiction de tout contact avec les victimes, interdiction de paraître aux abords et sur les propriétés des Metzdorf, ainsi que sur la piste de roulage reliant la RT1 et le bord de mer, et enfin interdiction de détenir ou de porter une arme. Ces 7 personnes seront jugées en correctionnel le 24 avril 2025. Le procureur de la République qui signe ce communiqué ajoute, et je cite, que dans un état de droit, ces comportements intimidants et menaçants destinés à troubler la tranquillité d'autrui ne sauraient être tolérés. Il précise que l'enquête a été menée par la gendarmerie avec toute la réactivité nécessaire et que le parquet a eu pour objectif dans sa décision de poursuite de faire cesser les agissements délictueux reprochés.
Plusieurs incendies en cours en ce moment sur le territoire. À 10h15 ce matin, un feu s'est déclenché entre le pic Malawi et le mont Kogi. La zone est difficile d'accès pour les pompiers. La pluie sur zone ralentit heureusement la progression du sinistre qui n'a ravagé qu'un hectare de végétation. Un incendie qui reste sous surveillance grâce à l'utilisation des drones. En province nord, ce sont des habitations de la tribu de Mebara à Kouawa qui sont menacées. Les pompiers sont sur place depuis 10h30, aidés par des renforts de la sécurité civile. Hier, je vous rappelle que 5 hectares ont brûlé à Dikos au niveau de la zone de stockage des débris des émeutes. Un incendie qui serait d'origine criminelle selon les premières constatations. Le sinistre n'a pas fait de dégâts dans les entreprises voisines du site. Il s'y préparait depuis plusieurs jours déjà. Les restaurateurs des quais ferrés ont vu passer quelques milliers de croisiéristes hier. Plus de 4700 touristes ont en effet visité le Caillou, débarqué directement à la gare maritime. Ils ont rempli les terrasses des quais ferrés. Chez Mr Coffee, leur arrivée a bien occupé les employés. Dans le bar à salade Blend, le retour est plus mitigé.
Ils sont arrivés doucement mais sûrement et ça a été un réel plaisir de les accueillir. Ils étaient extrêmement souriants, on a passé une journée super. Et on se croyait nous-mêmes en vacances, donc le top. On a doublé le chiffre d'un dimanche normal, donc tout bénef.
Un peu plus mitigé, parce que c'est vrai qu'en règle générale, quand ils viennent, donc ils ont déjà consommé sur le bateau ou dans d'autres restaurants qui ont des partenariats. Donc nous, c'est vrai qu'ils arrivent, ils recherchent plus des boissons fraîches et quelques sandwichs parce qu'ils doivent avoir des excursions toute la journée. Donc c'est vraiment un passage assez rapide.
Une reprise des croisières, sur Nouméa qui ne fait que commencer. Les restaurateurs se préparent pour la venue des touristes du Westerdam qui accostera jeudi prochain. Il est 12h13, une première pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Le salon Toyota 2024, du 15 au 17 novembre à la Maison des Artisans. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs, mais aussi sur les véhicules d'occasion. Venez découvrir la gamme Toyota et les dernières nouveautés. Alors rendez-vous du 15 au 17 novembre à la Maison des Artisans. Et le salon Toyota, c'est aussi chez Nord Motors Kone. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Votre Auchan Quai Ferry fête ses 1 an. C'est notre anniversaire, mais c'est vous qu'on gâte. Du 11 au 17 novembre, on double votre cagnotte fidélité, on vous offre des bons d'achat et la possibilité de remporter 2 caddies surprises par jour d'une valeur d'environ 60 000 francs. Rendez-vous en magasin.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Après les graves incidents à Amsterdam entre des supporters néerlandais et ceux du Maccabi Tel Aviv lors d'une rencontre de Ligue des Champions, le match de vendredi matin pour nous entre la France et Israël est placé sous haute tension sécuritaire, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il assisterait à cette rencontre de Ligue des Nations. 4000 policiers et gendarmes vont être mobilisés, le raid sera déployé et les autorités israéliennes déconseillent à leurs ressortissants d'assister au match. À Tel Aviv, Frédéric Simon pour Europe 1.
Le Conseil national de sécurité en Israël a rendu public en début de soirée un avertissement particulièrement clair, assez alarmiste. Il affirme que des appels à agresser des Israéliens d'Israël et un des membres des communautés juives dans plusieurs villes d'Europe ont été décelés au cours de ces derniers jours et de ces dernières heures. Les villes où le danger serait le plus grand sont Amsterdam, une fois de plus, mais aussi Bruxelles, plusieurs localités en Grande-Bretagne et Paris. Dans ces différentes villes, il est fortement recommandé aux Israéliens d'éviter d'assister à des rassemblements culturels ou sportifs, y compris donc au match de football qui opposera jeudi les sélections françaises et israéliennes. Il faut dire qu'un nombre réduit de supporters israéliens avait prévu de faire le déplacement, pas uniquement en raison de considérations sécuritaires d'ailleurs, les événements d'Amsterdam bien évidemment, mais aussi la rareté et donc le coût élevé des vols qui proviennent d'Israël dû à l'état de guerre. Et puis, il faut le dire, les médiocres performances de l'équipe nationale de football. Selon un site spécialisé dans l'actualité sportive, seules quelques dizaines de billets réservés aux supporters d'Israël ont été vendus, une information rapportée avant même la publication des avertissements à la fois précis et inquiétants du Conseil national de sécurité.
Et cela fait 400 jours que le Hamas a mené son attaque terroriste en Israël. 400 jours que des otages israéliens sont aux mains des islamistes. Une cérémonie en leur hommage était organisée à Paris, place du Palais Royal, qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Les organisateurs avaient choisi de faire passer 400 affiches noires symbolisant les 400 jours de captivité. Jean-David Ishéi est le président de l'association Tous 7 octobre.
Ça paraît interminable, ne serait-ce que de faire défiler 400 affiches, et pourtant les otages, ça fait 400 jours qu'ils sont là-bas. Cette mobilisation internationale, parce qu'elle a lieu à Paris, mais elle a lieu aussi dans le monde entier, elle permet de mettre la pression sur les dirigeants, mais surtout, en tout cas, ce sur quoi on a une garantie, c'est qu'elle aide les familles d'otages à tenir le coup, et rien que ça, c'est quelque chose de fondamental.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe.
À Radio Rythme Bleu, 12h16.
Les semaines sociales à venir s'annoncent chargées en métropole. Mouvement de grève annoncé à la SNCF, puis dans le transport aérien. Et les agriculteurs aussi envisagent de relancer un mouvement d'envergure. Alexis Bourdon pour Europe 1.
La colère ne retombe pas dans les champs la semaine dernière. Une note a été diffusée par la coordination rurale appelant tous les agriculteurs à finir le travail dans les exploitations pour ensuite retourner manifester. Et selon Lionel Candelon, président de la CR dans le Gers, la mobilisation s'annonce massive.
On avait fait jusqu'à maintenant des petits bâchages de radar. Non, là, on part avec 50, 100, 200 tracteurs et on va rester quoi, sur un autre mode d'action qui va, je pense, faire bouger grandement les lignes, parce que si c'est pas le cas, on risque de manquer de nourriture à Noël sur les tables des Français.
Dans le viseur des agriculteurs, des centrales d'achat ou des ports marchands, et depuis le blocage des autoroutes en février dernier, les demandes du monde paysan n'ont pas changé.
La surtransposition des normes franco-françaises par rapport à celles de l'Union européenne, déjà pour commencer. Après, il y a les charges qu'il faut continuer à baisser, notamment un blocage du prix du GNR, parce que si nous les charges baissent, demain les prix de l'alimentation baissera aussi.
La coordination rurale du Gers espère toujours un signe du gouvernement d'ici le 19 novembre prochain pour trouver un terrain d'entente et ainsi éviter un nouveau blocage du pays.
Et venons-en à l'actualité politique en métropole. Jordan Bardella multiplie les interventions depuis la sortie de son premier livre. Il occupe ainsi le terrain. Il était la nuit dernière pour nous dans le Lot-et-Garonne pour lancer sa campagne permanente. Le patron du Rassemblement national a en effet deux objectifs en tête, les municipales de 2026 et d'éventuelles législatives anticipées. Maïlène Trémollet.
Omniprésent dans les médias, ce matin en visite sur une exploitation céréalière, en meeting cet après-midi dans le Lot-et-Garonne, Jordan Bardella lance sa campagne XXL à l'occasion de la sortie de son livre et dénonce une atteinte à l'esprit français à la suite de l'interdiction d'en faire la promotion dans les gares.
Honte à ces censeurs qui ne supportent aucun point de vue différent du leur et qui aimeraient réduire au silence, au fond, des millions et des millions de patriotes français.
Le président du RN qui revient sur le devant de la scène pour une campagne qui tombe à pic, alors que Marine Le Pen se défend depuis plusieurs semaines dans le cadre du procès des assistants parlementaires du FN, Jordan Bardella sait incarner une nouvelle ligne, plus jeune, plus identitaire, mais toujours complémentaire avec celle de sa patronne. Le président du parti qui balaie dans son livre les rumeurs de rivalité, préférant mettre en avant son ambition toujours intacte de gouverner au sein d'un ticket gagnant, grâce auquel il irait à Matignon quand Marine Le Pen rejoindrait l'Elysée.
Il est midi et 19 minutes après la dernière pause de ce journal. Ce sera toute l'actualité sportive avec Mickaël Juneski.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'InfoMag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
La suite du journal avec le sport, avec du football et avec l'OL qui remporte le derby Lyon-Saint-Etienne en clôture de la 11e journée de Ligue 1, Mickaël.
Ouais, c'était l'heure des retrouvailles entre les deux clubs, rivaux historiques, puisque les Stéphanois sont revenus dans l'élite cette année. Mais ce sont bien les Lyonnais qui ont décroché la victoire. 1-0 sur un but du capitaine Alexandre Lacazette. Lyon remonte ainsi à la 5e place du championnat de France. Il ne faut pas se contenter de cette position, selon Alexandre Lacazette.
Non, ça fait du bien, ça me libère. Surtout dans le derby, mon premier au Groupama, c'est bien. On peut encore mieux faire. Mais faut pas se contenter de cette 5e place. Même s'il faut être reconnaissant de ce qu'on fait déjà, mais continuer à travailler pour viser encore plus haut.
Parmi les autres résultats du jour, Nice et Lille ont fait match nul, 2-2. Montpellier a battu Brest 3-1 pour enfin renouer avec la victoire. Le Havre a coulé face à Reims, défaite 3-0 à domicile. Et Toulouse l'a emporté à Rennes 2-0. Alors à l'issue de cette 11e journée de Ligue 1, le PSG reste évidemment en tête, juste devant Monaco. Marseille retombe à la 3e place, suivi de Lille. Et les Lyonnais donc qui complètent le top 5. En bas de tableau, Saint-Etienne est 16e. Le Havre 17e et Montpellier reste lanterne rouge.
On va venir à l'actualité du rugby avec ce week-end une série de tests matchs internationaux.
Et le dernier résultat du jour, c'est la victoire de l'Afrique du Sud sur l'Écosse, 32-15. On rappelle qu'hier, le 15 de France a surclassé le Japon, 52-12 en faveur des Bleus, avec un essai notamment du Calédonien Peato Mauvaka. Les tricolores qui retrouveront dans une semaine les redoutables All Blacks. À ce propos, on écoute le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont.
On aime tous voir les All Blacks jouer comme ça en tant que fan de rugby et de ce sport. On voit les belles actions qu'ils sont capables de faire, mais c'est surtout la physicalité, la densité physique qu'ils sont capables d'imposer à leurs adversaires qui a été marquante ces deux derniers week-ends. Et donc au-delà de leurs individualités, c'est ce qui m'a marqué le plus, et je pense qu'ils viendront avec le même état d'esprit le week-end prochain. Donc à nous d'élever notre niveau pour pouvoir répondre à la menace qui arrive.
Et effectivement, à une semaine du match contre les Bleus, les Néo-Zélandais ont encore signé un succès ce week-end chez les Irlandais, 23-13. Encore un résultat, l'Angleterre qui s'est inclinée face à l'Australie, 42-37.
On passe à l'actualité du tennis avec le début des Masters de Turin.
Ah, c'est le rendez-vous final sur le circuit ATP. Et déjà une première surprise, l'Américain Taylor Fritz qui a ouvert le bal avec une victoire sur le Russe Daniil Medvedev, 6-4, 6-3 en faveur de l'Américain. De son côté, l'Italien Yannick Sinner s'est imposé face à l'Australien Alex Di Minor, 6-3, 6-4. Demain, dans le deuxième groupe, Carlos Alcaraz retrouvera le Norvégien Casper Ruud, tandis qu'Alexander Zverev fera face au Russe Andrei Rublev.
Parlons voile, c'est parti pour le Vendée Globe 2024, Tour du Monde, faut-il le rappeler, en solitaire, sans escale et sans assistance.
L'épreuve est lancée, 10e édition, 40 participants qui ont quitté la nuit dernière les Sables d'Olonne en métropole. pour cette course donc de quelques 45 000 km autour du globe. Alors au dernier pointage, c'était très serré évidemment. Justine Métro sur Teamwork avait pris la tête devant Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil et Yannick Bestaven était en troisième position sur Maître Coq 5. Bien entendu, nous n'en sommes qu'à 13 heures de course à peine. Les IMOCA sont toujours au coude à coude. L'arrivée potentielle du vainqueur de ce Vendée Globe est prévue aux environs du 20 janvier 2025.
Et on termine avec l'actualité sport sur le territoire et du golf. C'est la dernière journée aujourd'hui des championnats territoriaux.
Une centaine de participants engagés depuis samedi sur les greens de Tina. Les conditions sont dures, mais le plaisir de retrouver une compétition avec à la clé des titres territoriaux est là, notamment pour les jeunes joueurs. À l'issue des deux premières journées, Jules Guépy du club de la Wingui est en tête avec 4 coups d'avance sur Adrien Pérez et Pierre Le Boulanger, tous deux ex-aequo. On écoute ce dernier qui réalise un très beau week-end, Pierre Le Boulanger.
Ça fait du bien d'avoir des compétitions sur 3 jours, de pouvoir jouer, même si le terrain n'est pas forcément au top de sa forme, mais ça fait très plaisir de pouvoir rejouer.
C'est quoi le plus gros problème, les plus grosses contraintes ?
La plus grosse contrainte, ça a vraiment été le vent, parce que jouer dans 20-25 nœuds, c'est compliqué, il faut trouver la bonne distance, ajuster avec le vent. C'est vraiment le plus dur à trouver, la distance. C'est celui qui va le mieux gérer son parcours, mieux connaître ses trajectoires, faire des balles basses et aux bonnes distances.
Voilà, et puis Jean-Louis Guépy de son côté, le premier pro dans le classement, est en 4e position à 8 coups de son fils, donc Jules Guépy, actuel leader du classement. Les dernières parties sont en cours sur les greens de Tina.